Médien.
Média. Podcast.
Médien. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a décidé de faire un travail de mémoire pour les générations à venir. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatine Wahbi, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va? Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Fatine?
Très très bien, merci en tout cas pour l'invitation, ça me touche et ça me fait très plaisir.
Eh ben, merci à vous d'être là et d'être en ligne avec nous et de prendre du temps de vos vacances justement pour nous parler de ce beau projet que vous avez rassemblé. Pourquoi? Parce que vous avez rassemblé plus de 100 proverbes marocains que vous avez compilés dans un recueil. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Okay.
Donc, j'ai un peu discuté autour de moi et je trouvais que les proverbes marocains n'étaient pas compilés quelque part. On ne les retrouvait pas puisqu'ils se transmettent de manière orale.
Absolument.
Et donc, j'ai décidé d'en faire une compilation, de sélectionner les 100 proverbes les plus utilisés dans la vie quotidienne et d'en faire un bouquin.
Ok. Alors, si vous vous êtes intéressé aux proverbes, c'est qu'ils ont eu, d'une manière ou d'une autre, un impact soit sur votre vie, soit que c'est en quelque sorte votre Madeleine de Proust.
Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est une Madeleine de Proust. J'ai grandi donc avec ma famille du côté marocain, où on utilisait beaucoup les proverbes. C'était une sorte de morale, de sagesse qu'on se transmettait comme ça entre nous. Derrière chaque proverbe, il y avait une petite morale. Et donc, ça nous a construit, ça nous a même éduqués parfois.
Absolument. Ils sont parfois contradictoires, hein, les proverbes marocains.
Oui, tout à fait. Ben, il y en a toujours. Parfois, on dit tout et son contraire dans un même,
ouais.
Dans une même phrase.
C'est les proverbes de votre enfance?
Oui. J'ai essayé de retenir vraiment ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui ont eu un impact un peu dans mon éducation et dans ma manière de voir les choses.
C'est les proverbes de votre maman ou de votre grand-mère?
Oui, maman, grand-mère, les oncles et les tantes. Voilà, nous, on est issus de l'immigration marocaine, donc mes grands-parents sont arrivés dans les années 70.
En Belgique,
puis,
c'est ça?
En Belgique, tout à fait, à Bruxelles. Et puis par la suite, y a eu ma maman. Et puis moi, je suis arrivée. Et puis moi, maintenant, j'ai mes enfants aussi. Donc mes enfants sont la quatrième génération.
Ouais.
Donc je trouvais que c'était important de leur transmettre quelque chose et de partager avec eux un petit héritage culturel. La quatrième génération, en général, ils ont du mal avec la langue arabe. Donc ils parlent un peu la darija, mais la langue arabe, c'est un peu plus compliqué. Et je trouvais que c'était une sorte de petit cadeau que je pouvais leur laisser, leur transmettre.
Alors, dans la vraie vie, vous êtes une passionnée de culture, donc depuis toujours.
Oui, tout à fait.
C'est votre métier.
Donc, moi, à la base, j'ai fait des études de journalisme. Et puis, ça fait 20 ans que je travaille dans la communication au ministère de l'Emploi à Bruxelles. Et donc, l'art a toujours fait partie un peu de ma vie. J'ai toujours été attirée par la littérature, par l'écriture, par l'art en général, le théâtre. Et donc, voilà, à un moment donné, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, pourquoi pas travailler là-dessus? Je pense que c'est plus un travail de sociologie,
d'anthropologie même.
Plutôt qu'un travail vraiment d'écriture.
Absolument.
Mais j'ai parlé un peu avec les anciens, j'ai parlé avec des gens au Maroc, j'ai parlé avec des personnes plus âgées.
Vous en avez découvert des nouveaux, justement, que vous ne connaissiez pas?
Oui, beaucoup.
Mathélène, par exemple.
Il y en a, par exemple, il y a des trucs un peu plus humoristiques. Par exemple, je trouve qu'un qui me fait très souvent bien rigoler, c'est l'Aka al-Khnouna.
Oui, mais...
Je trouvais que c'était très marrant et je ne le connaissais pas vraiment.
C'est vrai, oui.
On a les classiques, l'Imam de Flos, Klamoum Sos, l'Ifet Met, l'Issan Mafih Adam. Des petites expressions comme ça qu'on connaissait. Mais c'est vrai qu'on en découvre toujours et très souvent quand j'écoute la télé marocaine, j'en découvre encore des nouveaux.
Ouais.
Donc, je suis toujours en train de les noter parce que je trouve ça très amusant et très intéressant même.
C'est un peu... corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que cet intérêt que vous avez pour les proverbes marocains, c'est un peu votre cordon ombilical avec la culture marocaine.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un lien qui me rattache fortement à la culture marocaine parce que c'est une culture qui vient de ma maman. Et j'essaye toujours de garder ce lien. Je trouve qu'il ne faut pas perdre, et il ne faut surtout jamais oublier d'où on vient. Et pour se construire en tant que personne, il faut vraiment... Parce qu'on essaye, on parle toujours d'intégration, etc. Mais moi, je trouve que justement, pour être bien intégré, il ne faut pas oublier d'où on vient. Parce que sinon, c'est une tromperie. C'est une sorte de tromperie. On se trompe vraiment dans notre chemin. Et c'est ça que j'essaye aussi d'inculquer à mes enfants. Et c'est pour ça que ce bouquin, à Bruxelles, il a eu quand même un petit impact, parce que justement, pour les quatrièmes générations, ils sont très souvent perdus entre est-ce qu'on est belge, est-ce qu'on est marocain. Et finalement, on n'est jamais vraiment à sa place. On est étranger quand on vient au Maroc, parce qu'on nous reconnaît tout de suite qu'on est des MRE, entre guillemets. Et puis, on est étranger en Belgique, parce qu'on a la tête d'un étranger, et ça, ben, notre visage, on ne peut pas le changer. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce petit... Moi, comme vous avez dit tout à l'heure, une petite Madeleine de Proust qui nous rattache quand même à nos origines et à nos cultures.
Vous avez parlé de la quatrième génération, de son ressenti, mais la vôtre, votre génération à vous, cette troisième génération, ce que vous décrivez là, c'est on n'est pratiquement jamais à sa place. Est-ce qu'on le vit au quotidien?
Oui, moi, je dis toujours qu'on est une génération sandwich, parce que nos parents sont arrivés, ils ont fait un effort d'intégration énorme. Et puis nous, on a voulu encore plus prouver et avoir une sorte de reconnaissance envers nos parents qui ont fait ce parcours de l'immigration. L'exil, c'est pas toujours facile, il y a quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés. On quitte un pays, on quitte une langue, on quitte une culture, on arrive quelque part où on connaît personne, on doit apprendre une nouvelle langue. Et donc... Je trouve que nous, on est vraiment la génération où on est vraiment reconnaissant de ce parcours de nos parents. Et nos enfants, non, eux, ils sont nés en Belgique, ils sont nés dans cette culture. Ils n'ont pas ce côté, on a une certaine reconnaissance. Pour eux, tout est acquis, entre guillemets. Il n'y a pas un vrai combat d'intégration. Vous demandez à n'importe qui de la quatrième génération, ils disent, oui, moi, je suis belge. Même si, à la maison, il y a quand même cette culture marocaine, il y a une arabité qui est là, qui est présente. Mais pour eux, ils sont belges. Et donc, je pense que nous, on a été vraiment la génération sandwich, on a été la génération test.
Mais vous êtes la troisième génération. Vos grands-parents sont arrivés en Belgique.
Exactement.
Avec leurs enfants, notamment.
Oui. Tout à fait, oui.
Voilà. Vos parents.
Ma grand-mère est arrivée donc en 70, la première, ce qui est assez rare, hein, parce que c'est une femme qui a demandé les papiers pour venir en Belgique travailler dans des hôtels de luxe. Comme gouvernante. Et puis, par la suite, 9 mois après, elle a fait venir son mari et ses enfants.
C'est
avec
elle qui est venue en premier.
Tout à fait, ouais. Avec un regroupement familial. Donc, elle a ramené mon grand-père et les enfants. Et puis, voilà, et puis ils ont construit leur vie. Les enfants ont été à l'école, ils ont construit aussi leur vie. Eux aussi ont eu des enfants. Et puis, moi, voilà, je suis la petite fille qui a eu aussi 3 enfants sur le territoire belge. Et voilà, et on est toujours en quête quand même de cette intégration.
Ouais.
Moi, je reste persuadée qu'on est... Enfin, l'immigration, c'est ça, je pense, la difficulté, selon moi. C'est qu'on n'est jamais vraiment à notre place. On essaye de se créer une place. Je pense que les jeunes de ma génération, on a tous des beaux parcours professionnels, on a des belles carrières, etc. Mais quand vous voyez aujourd'hui cet engouement pour le retour vers le Maroc, donc on a énormément de jeunes couples, mais de jeunes célibataires qui ont envie d'investir au Maroc, de faire de l'entrepreneuriat au Maroc. Donc il y a un vrai désir, une vraie envie de retour.
De votre position à vous, vous le comprenez, cet engouement pour le retour?
Ben, je le comprends parce qu'on a grandi quand même en trame de fond. Nos grands-parents disaient toujours, on va travailler un peu, on va économiser et puis on va rentrer au pays. D'ailleurs, très souvent, ils ont beaucoup travaillé pour envoyer de l'argent au Maroc, pour construire des maisons et pour revenir. Mais après, une fois qu'ils ont eu leurs enfants, leurs petits-enfants, le retour a été quand même difficile. Mais aujourd'hui, moi, je le comprends. Je suis même dans la réflexion et l'idée de peut-être faire aussi un retour. Pourtant, malgré ma double culture, je me dis... Il y a quand même quelque chose à faire au Maroc, je pense.
Qu'est-ce qui vous motiverait, vous, justement, Fatine Wahbi, pour revenir?
Moi, ce qui
pour
me motive
venir,
au Maroc,
en fait, parce que vous n'êtes jamais partie, vous êtes née là-bas, en fait.
Tout à fait, exactement.
Ouais.
On peut même pas parler d'un retour.
Retour, c'est
vraiment
ça.
Juste moi, je dis toujours que c'est un lien émotionnel, une sorte de... un lien invisible. Vous savez, quand on est en Belgique et qu'on parle de Tanger, il y a tout de suite un petit... quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps. C'est très physique, même. On parle de Tanger, ah oui, je dis, ah oui, Tanger, c'est super, etc., etc. Il y a un petit lien émotionnel parce que j'ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais petite ici à Tanger, etc. Chaque année, quand on devait aller du côté libanais à Beyrouth, c'était différent. C'était gay aussi, mais c'était pas comme le Maroc. On dit toujours que la culture se transmet par la maman. Je pense que dans mon cas, c'est vraiment ça. C'est maman qui m'a élevée, qui m'a vraiment appris à parler le marocain. Au final, je me suis mariée avec un marocain. Donc voilà, je suis vraiment restée ancrée dans cette culture-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois le Maroc, comment il évolue, les opportunités qui y sont présentes. Après, peut-être qu'on se trompe aussi, on a un regard peut-être un peu fantasmé, on idéalise peut-être aussi le Maroc. Mais on a le sentiment, en tout cas en Europe et en tout cas en Belgique, que le Maroc est en pleine évolution et qu'il y a énormément d'opportunités.
Et vous pensez que vos enfants auraient la même perception, la même envie, cette quatrième génération ?
Mais la quatrième génération, je pense vraiment qu'ils commencent à se rendre compte qu'en Europe, il y a quand même une saturation au niveau des carrières, une saturation, même si on fait des hautes études, les débouchés sont pas très faciles. Et donc, ils ont aussi cette envie de s'engager dans autre chose. Peut-être pas spécialement revenir au Maroc, mais en tout cas, quitter l'Europe. Peut-être aller au Canada, aller dans d'autres pays, peut-être pour développer leurs compétences. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une saturation dans les pays européens où il y a une forte immigration.
Alors, je ne sais pas si on peut aborder un sujet, parce que, en quelque sorte, il vous touche et vous touche pas, et vous l'avez pas forcément vécu, mais vous avez dû entendre des histoires autour. C'est lorsque votre maman a ramené un étranger à la maison, un non-marocain, en fait, un Libanais.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était dans les années 80, maman décide de rencontrer un Libanais, décide de se marier avec un Libanais. Elle me raconte que quand elle a dit à mon grand-père qu'elle voulait se marier avec un Libanais, mon grand-père ne connaissait même pas ce pays. Mmh. Il a dit, moi, je ne sais même pas où se trouve ce pays sur la carte du monde. S'il t'arrive quelque chose, je fais quoi ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les couples mixtes sont assez, je ne vais pas dire tendance, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez compliqué. À l'époque, déjà, se marier quand tu es de Tanger avec quelqu'un de Casa, c'était considéré comme une mixité. Alors, quand maman a amené... un Libanais, comme je vous ai dit, on ne savait même pas où se situait ce pays. Le Liban, c'est aussi un tout petit pays. C'était assez compliqué, mais bon. Mes grands-parents, tant qu'il était musulman et qu'il parlait arabe, c'était très bien.
Oui, voilà. L'intégration, c'est bien faite.
Oui, l'intégration, c'est bien faite. Aujourd'hui, je pense que les couples mixtes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va dans des cultures, par exemple, même si c'est des musulmans, on se marie avec un Albanais ou un Turc. C'est déjà rien qu'au niveau de la langue. C'est déjà différent.
Oui.
Par contre, là, mes grands-parents étaient plutôt cool parce que voilà, ça parlait arabe, on se comprenait, il n'y avait pas vraiment de soucis, quoi. Donc voilà.
Alors, quand on a une double nationalité, enfin, on a un père d'une nationalité, une mère d'une autre nationalité, et qu'on ne vit sur aucun territoire de ses parents et qu'on vit sur un autre territoire, vous avez en fait, vous êtes l'incarnation du melting pot culturel et identitaire.
Tout à fait, oui. On est pratiquement sur trois cultures. La culture du sol, là où on est né, où on a grandi, et voilà. Et puis la culture qu'on avait à la maison, une mixité entre le Libanais et le Marocain. Et voilà, et on est éduqué par trois cultures différentes. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que il faut, quand on est, en fait, on met des casquettes différentes. Quand on est à l'extérieur, au travail, dans sa carrière, on essaye d'être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu intégrée, un peu présente et forte dans le cadre du travail. Puis à la maison, on essaye quand même de garder cette identité parce qu'elle nous a construit aussi. Et que parfois, on a même des comportements qui se font de manière inconsciente parce qu'ils sont là, ils sont innés, ils sont présents, ils ont toujours été là et on n'arrive pas. Je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, le Ramadan. Le Ramadan, c'est quelque chose de religieux, mais finalement, quand on est en Europe, ça devient presque quelque chose de culturel. Ça nous lie. C'est plus le plaisir de faire des belles tables, le plaisir de manger des choses qu'on ne mange pas quand c'est pas le Ramadan. Le côté culturel, religieux est presque effacé. C'est vraiment le côté culturel qui ressort. On met des belles candorettes, on fait des belles tables, on fait la soupe. Voilà, et le côté religieux disparaît presque. Il est juste en trame de fond. Donc, on est vraiment en recherche de ce côté culturel. Et moi, c'est ce qui me plaît avec le Maroc, c'est que c'est un pays qui est très, très riche au niveau culturel. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre et que c'est quelque chose qui doit se transmettre de génération en génération.
Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit le problème, c'est qu'on n'est jamais à sa place parce que en Europe, eh bien, on n'a pas la tête d'un Européen. Et au Maroc, on nous reconnaît comme émereux.
Tout à fait.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Marocains du Maroc, pour peut-être ne pas vous faire ressentir cette différence ?
Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire, parce que c'est encore, une fois, c'est encore culturel. Il y a ce côté, oui, les MRE arrivent, les prix augmentent, les fruits augmentent, les légumes augmentent, le taxi augmente. Et je pense que c'est une réalité, effectivement. Quand on arrive, pour nous, les choses nous paraissent vraiment... peu cher, alors que pour vous, le salaire moyen au Maroc n'a rien à voir avec le salaire qu'on a en Europe. Et c'est en fait juste un problème de perception. Nous, on a une perception qui n'est pas la vôtre, et vous n'avez pas la même perception que nous. Mais je pense que, pour moi, ce qui fait le lion, et ce qui fera toujours le lion, et c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur cette chose-là, c'est la langue. Il faut garder la langue. Le fait de pouvoir se parler et se comprendre, c'est le plus important pour moi. Quand il y a des MRE qui arrivent et qui ne savent même pas parler de la Darija, c'est très compliqué, je pense, pour eux de trouver leur place encore plus. Je pense que la langue, c'est quelque chose de très, très important. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai fait le livre, et le livre, j'ai écrit les proverbes en français, donc je les ai écrits lettre par lettre, par exemple, l'ifet met.
En phonétique.
J'ai écrit en français phonétique. Donc j'ai mis L-I-F-A-T-M-A-T. Pour qu'un jeune, même s'il ne sait pas lire l'arabe, il sait le lire de manière littérale, et quand il entend le son, il entend la langue marocaine, la darija. Et parce que pour moi, c'est important. La langue, c'est vraiment la chose la plus importante pour la transmission.
Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans certaines familles où certains jeunes ne parlent pas de darija, c'est parce que les parents ne la parlent pas à la maison
Non, mais je pense que vraiment, ça a été ça le problème de la génération d'avant. Quand ils sont arrivés ici, ils ont pensé que pour s'intégrer et justement pour trouver leur place, il fallait qu'on apprenne le français. Il fallait que tout le monde parle français, même les parents se sont mis au français, tout le monde parlait français à la maison. Quand vous voyez des familles pakistanaises, des familles turques, vous rencontrez des enfants, ils ont 2 ans, ils jouent au parc, ils parlent que le turc ou que le pakistanais. Et nous, non, je pense qu'on a fait une erreur de calcul. On s'est dit que non, pour s'intégrer, il fallait qu'on soit super bon à l'école, il faut que le français soit impeccable, etc. Et finalement, on a perdu la darija. Moi, je vois mes enfants, j'essaye de leur parler en marocain à la maison. Ils s'expriment, ils comprennent, etc. Mais quand même, quand ils veulent vraiment se faire comprendre, ils vont parler en français. Parce que c'est leur langue. Mais vraiment, quand je suis assez jalouse quand je vois les autres familles d'autres cultures, très souvent, les Pakistanais, les Turcs, les Espagnols, eux, vraiment, ils ancrent la langue depuis le plus petit, depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Mais voilà, je pense que c'était vraiment une recherche d'intégration, une recherche d'identité. On voulait vraiment se fondre dans la masse et on a pensé que c'était via la langue que ça allait se faire. Mais j'en suis pas sûre.
Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les proverbes.
Oui.
Cette aventure pour répertorier ces 100 proverbes les plus courants, les plus communs dans notre darija marocaine, c'est un voyage aussi humain parce que c'est la rencontre avec les anciens, c'est... Au-delà des proverbes, au-delà de justement de ce recensement de proverbes, vous avez appris quoi sur votre culture marocaine ?
Ben, j'ai appris, comme je vous ai dit, que c'était une culture qui était très riche. C'était une culture qui avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de tendresse et en même temps beaucoup d'humilité. Je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais... je pense qu'à travers les proverbes, comme il y avait beaucoup de gêne, beaucoup de chouma, il y a beaucoup de chouma chez nous, beaucoup de gêne, et parfois pour faire passer un message, juste en disant un proverbe, en citant un proverbe dans une discussion, ça pouvait un petit peu diluer la conversation, faire passer quelque chose qu'on n'osait pas dire avec des mots classiques, entre guillemets. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment... moi, ça m'a fort touchée, et c'est pour ça que je... Inch'Allah, je compte faire un deuxième tome parce que j'ai encore plus de 200 proverbes dans mon ordinateur. Mais c'est vrai que je trouve que les proverbes sont... Mais en tout cas, je pense qu'ils sont répertoriés dans le patrimoine de l'UNESCO parce que c'est vraiment quelque chose de hyper important. Et comme c'est une transmission qui se fait que oralement, il n'y a pas eu beaucoup de bouquins là-dessus. Je vous avoue que quand j'ai commencé à écrire, j'ai cherché des ouvrages qui parlent des proverbes marocains, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé un ouvrage qui parle des proverbes tunisiens en Tunisie, mais j'ai pas trouvé. Oui, les proverbes français, classiques, etc., on trouve, mais marocains, vraiment, j'en ai pas trouvé. Et donc, voilà, c'était vraiment juste pour les transmettre et les partager, parce que je pense que c'est très, très important de ne pas perdre cet héritage culturel.
Vos enfants en ont découvert des nouveaux ?
Oui, le premier test, quand j'ai terminé le livre, c'est que je l'ai fait lire à mes enfants.
Ouais.
Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils comprenaient les mots. Donc, par exemple, l'ifet met, ils vont comprendre le mot et la phrase qu'elle veut dire, mais ils ne comprenaient pas le sens qui se cachait derrière.
La nuance du proverbe, en fait.
Voilà, exactement. Oh, la nuance, ouais. Le conseil, la morale, la sagesse qui se cache derrière le proverbe. Et c'était ça, en fait, c'était ça, moi, qui m'intéressait. Parce que j'écris le proverbe, donc je le traduis mot à mot et je donne une interprétation et le contexte dans lequel il peut être utilisé.
Ouais.
Dans quel moment d'une discussion on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Donc évidemment, le proverbe, c'est ça la difficulté, c'est qu'il change de signification en fonction du proverbe dans lequel il est dit.
En fonction donc, du contexte. Dans
du contexte, exactement. Voilà, dans le contexte dans lequel il est dit, les conversations dans lesquelles il est cité. Et donc, parfois, comme on a dit tout à l'heure, parfois, il peut dire tout et son contraire. Quoi,
donc, en fait, c'est un recueil pour la diaspora francophone.
Oui, évidemment. Oui,
évidemment, parfait. Exactement.
Oui, oui.
Ça s'appelle Retour aux sources, c'est bien ça.
Tout à fait, Retour aux sources.
Eh bien, merci infiniment, Fatine Wahbi,
merci
d'avoir
vous,
été
merci
ma femme d'aujourd'hui.
L'invitation.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.